Ramuncho, deuxième partie, chapitre 2. Il revenait, lui, Raymond, après ses 3 années d'absence, congédié de l'armée dans cette ville du Nord où son régiment tenait garnison. Il revenait le cœur en désarroi, le cœur en tumulte et en détresse. Son visage de 22 ans avait bruni sous les ardents soleils. Sa moustache, maintenant très longue, lui donnait un air de noblesse fière. Et sur le parement de costume civil qu'il venait d'acheter, s'étalait le ruban glorieux de sa médaille. À Bordeaux, où il était arrivé après une nuit de voyage, il avait pris place, avec déjà une émotion, dans ce train d'Irin, qui descend en ligne directe vers le sud, à travers la monotonie des landes interminables. Près d'une portière de droite, il s'était installé pour voir plutôt s'ouvrir le golfe de Biscaye et se dessiner les hautes terres d'Espagne. Puis, vers Bayonne, il avait tressailli, en apercevant les premiers bérets basques, aux barrières, les premières maisons basques dans les pins et les chênes lièges. Et à Saint-Jean-de-Luz, enfin, en mettant pied à terre, il s'était senti comme un homme ivre. D'abord, après ces brumes et ces froids déjà commencés dans la France septentrionale, c'était l'impression subite et voluptueuse d'un climat plus chaud, la sensation d'entrer dans une serre. Il y avait fête de soleil ce jour-là. Le vent du sud, l'exquis vent du sud, soufflait, et les Pyrénées s'élevaient en teintes magnifiques sur le grand ciel libre. De plus, des filles passaient, dont le rire sonnait le midi à l'Espagne, qui avait l'élégance et la grâce désinvoltes des Basquaises, et qui, après les lourdes blondes du Nord, le troublaient encore plus que toutes ses illusions d'été. Mais promptement, il retomba sur lui-même. À qui donc pensait-il de se laisser reprendre au charme d'ici, puisque ce pays retrouvé était pour lui vide à tout jamais? En quoi cela pouvait-il changer son infinie désespérance, cette désinvolture si tentante des filles, toute cette ironique gaieté du ciel, des êtres et des choses? Non, rentrer chez lui plutôt, regagner son village, embrasser sa mère. Comme il l'avait prévu, la diligence qui dessert chaque jour à César était déjà partie depuis 2 heures. Mais sans peine, il ferait à pied cette longue route, du reste si familière, et ainsi, il arriverait quand même ce soir avant la nuit close. Il alla donc s'acheter des espadrilles, la chaussure de ses courses d'autrefois, et de son pas rapide de montagnard, à longues enjambées nerveuses, il s'enfonça tout de suite au cœur du pays silencieux, par des routes qui étaient pour lui remplies de souvenirs. Novembre finissait, dans un tiède rayonnement de ce soleil qui s'attarde toujours très longtemps ici, sur les pentes pyrénéennes. Depuis des jours dans le Pays basque, durait ce même ciel lumineux et pur, au-dessus des bois à demi effeuillés, au-dessus des montagnes rougies de la teinte ardente des fougères. Au bord des chemins montaient de hautes graminées, comme au mois de mai, et de grandes fleurs en ombelles qui se trompaient de saison. Dans les haies, des troènes, des églantiers avaient refleuri, au bourdonnement des dernières abeilles, et on voyait voler de persistants papillons, à qui la mort avait fait grâce de quelques semaines. Les maisons basques émergeaient çà et là des arbres, très élevés, le toit débordant très blanche dans leur vieillesse extrême, avec leur haut vent brun ou vert, d'un vert ancien et fané. Et partout, sur leurs balcons de bois, séchaient des citrouilles jaunes d'or, les gerbes de haricots roses. Partout, sur les murs, s'étageaient comme de beaux chapelets de corail, des guirlandes de piments rouges. Toutes les choses de la terre encore fécondes, toutes les choses du vieux sol nourricier, amassées ainsi suivant l'usage millénaire, en prévision des mois assombris où la chaleur s'en va. Et après les brumes de l'automne du Nord, cette limpidité de l'air, cet ensoleillement méridional, chaque détail revu de ce pays éveillait dans l'âme complexe de Ramuncho des vibrations infinies, douloureusement douces. C'était la saison tardive où l'on coupe ces fougères qui forment la toison des coteaux roux. Et de grands chariots à bœufs, qui en étaient remplis, roulaient tranquillement, au beau soleil mélancolique, vers les métairies isolées, laissant au passage la traînée de leur senteur. Très lente, par les chemins de montagne, s'en allaient ces charges énormes de fougères, très lentes, avec des tintements de clochettes. Les bœufs attelés, indolents et forts, coiffés tous de la traditionnelle peau de mouton couleur de bête fauve qui leur donne l'air de bison ou d'auroch, traînaient ces chariots lourds, dont les roues sont des disques pleins comme celles des chars antiques. Les bouviers, le long bâton à la main, marchaient devant, toujours sans bruit en espadrilles, la chemise de coton rose découvrant la poitrine, la veste jetée à l'épaule gauche, et le béret de laine très enfoncé sur une face rasée, maigre, grave. à laquelle la largeur des mâchoires et des muscles du cou donne une expression de solidité massive. Ensuite, il y avait des intervalles de solitude, où l'on n'entendait plus, dans ces chemins, que le bourdonnement des mouches, à l'ombre jaunie et finissante des arbres. Ramuncho les regardait, ces rares passants qui croisaient sa route, s'étonnant de ne pas encore rencontrer quelqu'un de connu qui s'arrêterait à lui. Mais point de visage familier, non, et point d'effusion avec des amis retrouvés, rien que de vagues bonjours, échangés avec des gens qui se retournaient un peu, croyant l'avoir vu jadis, mais ne se rappelaient plus bien, et, tout de suite, se replongeaient dans l'humble rêve des champs. Et il sentait plus accentué que jamais la différence première entre lui et ses gens de labour. Là-bas, cependant, on voit s'y venir un de ces chariots, dont la gerbe est si grande que les branches des chênes l'accrochent au passage. Devant chemine le conducteur, au regard de résignation douce, large garçon paisible, roux comme les fougères, roux comme l'automne, avec une fourrure rousse embroussaillée sur sa poitrine nue. Il marche d'une allure souple et nonchalante, les bras étendus en croix le long de son aiguillon à bœuf, qu'il a posé en travers sur ses épaules. Ainsi, sans doute, au flanc de ces mêmes montagnes, marchaient ses ancêtres, laboureurs et bouviers, comme lui, depuis des siècles sans nombre. Et celui-là, à l'aspect de Ramuncho, touche ses bœufs au front, les arrête d'un geste et d'un petit cri de commandement, puis vient au voyageur en lui tendant ses braves mains. Florentino! Un Florentino très changé, ayant plus de carrure encore, tout à fait homme à présent, avec je ne sais quoi de définitivement assuré et épanoui. Ils s'embrassent les deux amis. Ensuite, ils se dévisagent en silence, gênés tout à coup par le flot de souvenirs qui remontent au fond de leur âme, et qui ne savent ni l'un ni l'autre exprimer. Raymond, pas mieux que Florentino, car, si son langage est infiniment plus formé, la profondeur et le mystère de ses pensées sont aussi bien plus insondables. Et cela les oppresse de concevoir des choses qu'ils sont impuissants à dire. Alors leur regard embarrassé se reporte distraitement sur les beaux grands bœufs en arrêt. « Ils sont à moi, tu sais, » dit Florentino. « Il y a 2 ans, je me suis mariée. Ma femme a de l'ouvrage de son côté. Et en travaillant, nous commençons à être assez bien chez nous. « Oh » ajoute-t-il avec son orgueil de naïf, « j'en ai encore une autre paire de bœufs comme ça à la maison. » Puis il se tait, devenu rose tout à coup sous son hâle de soleil, car il a ce tact qui vient du cœur, que les plus humbles possèdent souvent par nature, mais qu'en revanche, l'éducation ne donne jamais, même aux gens du monde les plus affinés, considérant le retour désolé de Ramuncho, sa destinée brisée, sa fiancée ensevelie là-bas chez les nonnettes noires, sa mère mourante. Il a peur d'avoir déjà été cruel en étalant trop son bonheur à lui. Alors le silence revient. Ils se regardent encore un instant avec de bons sourires, ne trouvant point de parole. D'ailleurs, entre eux, l'abîme des conceptions différentes s'est creusé davantage en ces 3 années. Et Florentino, touchant de nouveau ses bœufs au front, les remet en marche avec un petit appel de la langue, serrant bien fort la main de son ami. « On se reverra, n'est-ce pas? On se reverra !» Et le bruit des clochettes de son attelage se perd bientôt dans le calme du chemin le plus ombreux où commence à décroître la chaleur du jour. « Allons, il a réussi sa vie, celui-là, » pense lugubrement Ramuncho, en continuant de marcher sous les branchages d'automne. La route qu'il monte suit toujours, ravinée çà et là par des sources et quelquefois traversée par les grosses racines des chênes. C'est bientôt que César va lui apparaître, et avant même qu'il l'ait vu, voici que l'image s'emprécise de plus en plus en lui-même, rappelée et avivée dans sa mémoire par l'aspect des alentours. Son pas s'accélère, et son cœur a des battements plus forts. Vide à présent tout ce pays-là, où Gracieuse n'est plus, vide et triste à parcourir comme une demeure aimée quand la grande faucheuse y a passé. Et pourtant Ramuncho, au fond de lui-même, ose penser que, dans quelque petit couvent, par là-bas, sous le béguin d'une nonne, les chers petits yeux noirs existent toujours, et qu'il pourra au moins les revoir, qu'une prise de voile en somme, ce n'est pas tout à fait comme la mort, et que peut-être le dernier mot de la destinée n'est pas dit à jamais. Car, en y réfléchissant, qui a pu changer ainsi l'âme de Gracieuse, autrefois si uniquement abandonnée à lui? Oh, de terribles pressions étrangères, pour sûr! Et alors, en se revoyant face à face, qui sait? En se reparlant les yeux dans les yeux. Mais quoi cependant? Que pourrait-il bien espérer d'un peu raisonnable et possible? Mais quoi cependant? Que pourrait-il bien espérer d'un peu raisonnable et possible? Est-ce qu'on n'a jamais vu au pays une religieuse faillir à ses éternels vœux pour suivre un fiancé? Et d'ailleurs, où irait-il bien vivre ensemble? Après, quand les gens s'écarteraient d'eux, les fuiraient comme des renégats, aux Amériques peut-être, et encore. Et comment l'aborder et la reprendre dans ces blanches maisons de mortes où les sœurs habitent éternellement surveillées, écoutées? Oh non, chimère irréalisable tout cela. C'est bien fini, fini sans espoir. Enfin la tristesse qui lui vient de gracieuse, pour un moment s'oublie, et il ne sent plus qu'un élan de tout son cœur vers sa mère qui lui reste, elle, qui est là, très près, un peu bouleversée sans doute, par le joyeux trouble de l'attendre. Et maintenant, sur la gauche de sa route, voici un humble hameau, à demi noyé dans les hêtres et les chênes, avec sa chapelle ancienne, avec son mur pour le jeu de pelote, sous de très vieux arbres au croisement des deux sentiers. Aussitôt, dans la tête jeune de Raymond, le cours des pensées change encore ce petit mur au faîte arrondi, recouvert d'un badigeon de chaux et d'ocre, réveille tumultueusement en lui des pensées de vie, de force et de joie. Avec une ardeur d'enfant, il se dit que demain, il pourra s'y remettre, ce jeu de basque, qui est une griserie de mouvements et de rapide adresse. Il songe aux grandes parties des dimanches après vêpres, la gloire des belles luttes avec les champions d'Espagne, tout cela qui lui a tant manqué pendant ses années d'exil et dont il va faire son avenir à présent. Mais c'est un instant bien court, et la désespérance mortelle revient le heurter au front. Ses triomphes sur les places, gracieuse ne les verra pas. Alors, mon Dieu, à quoi bon? Sans elle, toute chose, même celle-ci, retombe décolorée, inutile et vaine, n'existe seulement plus. Et César qui se découvre là-bas, tout à coup, à un tournant du chemin. C'est dans une lueur rouge, comme une image de fantasmagorie, éclairée à dessein d'une façon spéciale, au milieu des grands fonds d'ombre et de soir. Il est l'heure du couchant. Autour du village isolé que surmonte le vieux clocher lourd, un dernier faisceau de rayons trace un halo couleur de cuivre et d'or, tandis que des jeux de nuages, une obscurité géante émanée de la Gisune, assombrissent les terres amoncelées au-dessus et au-dessous, l'amas des coteaux bruns, colorés par la mort des fougères. Oh, la mélancolique apparition de patrie au soldat qui revient et qui ne retrouvera plus de fiancé. 3 ans passés, depuis qu'il s'en était allé d'ici. Or, 3 ans! Si c'est hélas un rien fugitif plus tard dans la vie, à son âge, c'est encore une abîme de temps, une période qui change toute chose. Et après cet exil si long, combien ce village qu'il adore cependant lui réapparaît diminué, petit, muré dans les montagnes, triste et perdu. Au fond de son âme, de grand garçon inculte, recommence, pour le faire davantage souffrir, le combat de ces 2 sentiments d'homme trop affinés, qui sont un héritage de son père inconnu. Un attachement presque maladif à la demeure, au pays de l'enfance, et un effroi de revenir s'y enfermer, quand on sait qu'il existe par le monde si vaste et libre ailleurs. Après le chaud après-midi, voici que l'automne s'indique maintenant par la chute hâtive du jour, avec tout à coup une fraîcheur montant des vallées d'en dessous, une senteur de feuilles mourantes et de mousse. Et alors, les 1000 détails des précédentes automnes du Pays basque, des novembres d'autrefois, lui reviennent très précis les froides tombées de nuit succédant aux belles journées de soleil. Les brumes tristes apparaissant avant le soir, les Pyrénées confondues parmi des vapeurs d'un gris d'encre, ou bien par places, découpées en noires silhouettes sur un pâle ciel d'or. Autour des maisons, les tardives fleurs de jardin, que les gelées épargnent longtemps ici, et devant toutes les portes, la jonchée de feuilles de platane en berceau. La jonchée jaunie, craquant sous les pas de l'homme qui rentre en espadrille au gîte pour l'heure de souper. Oh, le bien-être et l'insouciante joie de ces retours au logis, les soirs d'autrefois, après les journées de marche dans la rude montagne. Oh, la gaieté en ces temps-là, des premières flambées d'hiver, dans le haut foyer fumeux orné d'une râperie de calicot blanc et d'une découpure de papier rose. Non, à la ville avec ses amas de maisons, d'intérieurs grouillants partout, on n'a plus la vraie impression de rentrer chez soi, de se terrer le soir à la manière primitive, comme ici, sous ces toits basques solitaires au milieu de la campagne, avec tout ce grand noir alentour, le grand noir frissonnant des feuillets, le grand noir changeant des nuages et des cimes. Mais aujourd'hui, ces dépaysements, ces voyages, ces conceptions nouvelles lui ont amoindri et gâté sa demeure de montagnard. Il va sans doute la retrouver, presque désolé, en songeant surtout que sa mère n'y sera pas toujours, et que Gracieuse n'y sera jamais plus. Son pas s'accélère encore, dans la hâte d'embrasser sa mère. Il contourne sans y entrer son village, pour gagner sa maison écartée, par un chemin qui domine la place et l'église. En passant vite, il regarde tout avec un trouble inexprimable. Dans la paix du silence plane sur cette petite paroisse des Césars, cœur du pays basque français et patrie de tous les pelotari fameux du passé, lesquels sont devenus de lourds grands-pères ou bien des morts présents. L'immuable église, où sont restés ensevelis ses rêves de foi, s'entoure des mêmes cyprès obscurs comme une mosquée. La place du jeu de paume, tandis qu'il chemine rapidement au-dessus, s'éclaire du peu de soleil encore, d'un rayon finissant, très oblique, vers le fond, vers le mur que surmonte l'inscription des anciens temps. Tout comme le soir de son premier grand succès, il y a 4 années quand, parmi la joyeuse foule, Gracieux se tenait là en robe bleue, elle qui est devenue une nonnette noire aujourd'hui. Sur les gradins déserts, sur les marges de granit où l'herbe pousse, 3 ou 4 vieillards sont assis, qui jadis étaient les vaillants du lieu, et que leurs souvenirs amènent sans cesse là, pour causer la fin des journées, pendant que le crépuscule descend des cimes, envahit la terre, semble émaner et tomber des Pyrénées brunes. Oh, les gens qui habitent ici, dont la vie s'écoule ici, oh, les petites auberges à cidre, les petites boutiques simplettes, et les surannées petites choses, à portée des villes, des ailleurs, qu'on y vend aux montagnards d'alentour. Combien tout cela lui paraît maintenant étranger, séparé de lui-même, ou reculé, comme au fond d'un primitif passé. Est-ce que vraiment il n'est plus quelqu'un des Césars aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est plus le Ramunchod d'autrefois? Quoi donc de si particulier réside en son âme pour l'empêcher de se retrouver bien ici comme les autres? Pourquoi, mon Dieu, lui est-il interdit à lui seul d'accomplir ici la tranquille destinée de son rêve, quand tous ses amis ont accompli la leur? Enfin, voici sa maison, là, devant ses yeux. Elle est bien telle cependant qu'il pensait la revoir. Ainsi qu'il s'y attendait, il reconnaît le long du mur toutes les persistantes fleurs cultivées par sa mère, les mêmes espèces que les gelées ont détruites là-bas depuis des semaines dans le nord d'où il vient, les héliotropes, les géraniums, les hauts dahlias et les roses aux branches grimpantes, et la chair jonchée de feuilles qui tombe chaque automne des platanes taillés en voûte, et là aussi, et se froisse et s'écrase avec un bruit si familier sous ses pas. Dans la salle d'en bas, quand il entre, il y a déjà de l'indécision grise, déjà de la nuit. La haute cheminée, où son regard d'abord s'arrête par un instinctif souvenir de ses flambées des anciens soirs, se dresse, pareille avec sa draperie blanche, mais froide, emplie d'ombre, sentant l'absence ou la mort. Il monte en courant vers la chambre de sa mère. Elle, de son lit, ayant bien reconnu le pas de son fils, s'est dressée sur son séant, toute raide, toute blanche dans le crépuscule. « Raymond » dit-elle d'une voix couverte et vieillie. Elle lui tend les bras, et dès qu'elle le tient, l'enlace et le serre. « Raymond !» Puis, après ce nom prononcé, sans ajouter rien, elle appuie la tête contre sa joue, dans le mouvement habituel d'abandon, dans le mouvement des grandes tendresses d'autrefois. Lui alors s'aperçoit que le visage de sa mère est brûlant contre le sien. À travers cette chemise, il sent les bras qui l'entourent amincis, fiévreux et chauds. Pour la première fois, il a peur. La notion qu'elle est sans doute très malade se présente à son esprit. La possibilité et la soudaine épouvante qu'elle meure. « Oh, vous êtes toute seule, ma mère. Mais qui donc vous soigne? Qui vous veille ?»«
Me veiller ?» répondit-elle avec sa brusquerie, ses idées de paysage subitement revenues. Dépenser de l'argent pour me garder. Et pourquoi faire, mon Dieu? La Benoîte, ou bien la vieille d'Oyambonrue, vient dans la journée me donner ce dont j'ai besoin. Les choses que le médecin me commande. Quoique, les remèdes, vois-tu? Enfin, allume une lampe. Dis, mon Ramuncho, je veux te voir, je ne te vois pas.
Et quand la clarté a jailli d'une allumette de contrebande espagnole, elle reprend, sur un ton de câlinerie infiniment douce, comme on parle à un tout petit enfant qu'on adore. «
Ô tes moustaches, les longues moustaches qui te sont venues, mon fils. C'est que je ne reconnais plus mon Ramuncho, moi. Approche-la, ta lampe, mon bien-aimé, approche-la, que je te regarde bien. Lui aussi la voit mieux, à présent, sous la lueur nouvelle de cette lampe, tandis qu'elle le dévisage et l'admire avec amour. Et il s'effraie davantage, parce que les joues de sa mère sont si creuses, ses cheveux presque blanchis, même l'expression de son regard est changée comme éteinte. Sur sa figure apparaît tout un sinistre et irrémédiable travail du temps, de la souffrance et de la mort. Et maintenant, deux larmes, rapides et lourdes, coulent les yeux de Franchita, qui s'agrandissent, redeviennent vivants, rajeunis de révolte désespérée et de haine. « Oh, cette femme !» dit-elle tout à coup. « Crois-tu cette Dolorès ?» Et ce cri inachevé exprime et résume toute sa jalousie de 30 années, toute sa rancune sans merci contre cet ennemi d'enfance qui a réussi enfin à briser la vie de son fils. Un silence entre eux. Lui s'est assis, tête courbée, auprès de ce lit, tenant la pauvre main fiévreuse que sa mère lui a tendue. Elle, respirant plus vite, semble un long moment sous l'oppression de quelque chose qu'elle hésite à exprimer. « Dis-moi, mon Raymond, je voudrais te demander, qu'est-ce que tu comptes faire à présent, mon fils? Quels sont tes projets, dis, pour l'avenir ?»« Je ne sais pas, ma mère. On pensera, on va voir. Tu me demandes ça, là, tout de suite ?» On a le loisir d'en recoser, n'est-ce pas? Aux Amériques, peut-être. Ah oui, reprend-elle lentement, avec tout l'effroi qui couvait en elle depuis des jours. Aux Amériques. Oui, je m'en doutais bien. Oui, c'est là ce que tu feras, va. Je le savais. Je le savais. Sa phrase s'achève en un gémissement, et elle joint les mains pour essayer une prière.